Les coqs chantent et jour pareil, tous se debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Oui, allô?
Bonjour, monsieur. Vous voyez que nous sommes à l'heure.
Je vois ça. Très content.
Comme des chefs de gare.
Exactement. Ça fait du bien.
Vous êtes monsieur Bastien Sachet. Vous êtes directeur de la fondation Earthworm. Est-ce que je le dis bien? Parce que mon anglais n'est pas...
C'est parfait. Earthworm, ça veut dire ver de terre en anglais. Donc, c'est parfait.
Ah, ça veut dire ver de terre.
Exact.
Chaque année, on célèbre la Journée internationale de la Terre le 22 avril. Il s'agit de sensibiliser les gens aux défis auxquels doit faire face notre planète. D'abord, la planète Terre, c'est notre maison unique. Et pour l'agriculteur, la Terre, c'est le substrat principal et le premier ingrédient. Nous allons dans les Hauts-de-France avec le collectif Sol Vivant. Pourquoi la région Hauts-de-France ? Avec des sols fertiles, des nappes souterraines et une pluviométrie favorable, cette région est une championne agricole sur de nombreuses productions qui ont progressivement constitué des filières fortes et compétitives. Au total, ce sont plus des deux tiers du territoire de la région qui ont une vocation agricole, soit 2,1 millions d'hectares. Les activités agricoles contribuent à l'emploi de 110 000 femmes et hommes. Pour vous donner une idée, retenez que 2/3 des pommes de terre et 10% du lait français proviennent de cette région. C'est dans cette région Hauts-de-France qu'une vingtaine d'agriculteurs et de nombreux autres acteurs ont constitué le collectif Sol Vivant en 2019. Il s'agit de continuer à produire et à transformer des denrées alimentaires tout en respectant les écosystèmes. Nous l'avons déjà dit, une terre en bonne santé est un ingrédient vital pour la production agricole. Pour nous expliquer cette affaire, nous avons au téléphone Bastien Sachet qui coordonne le collectif Sol Vivant.
Alors, la Fondation Earthworm, c'est une organisation à but non lucratif qui a été créée il y a 20 ans. Et notre objectif, c'est de régénérer les forêts et les sols, parce qu'on pense que c'est de là que tout part. Parce que c'est probablement là qu'il y a le plus de biodiversité, dans les forêts et dans les sols, sous terre notamment. C'est ce qui nous fournit de quoi manger, de quoi nous vêtir chaque jour. Et puis, on retrouve finalement un lien avec la forêt et le sol dans tous les produits de consommation. Et notre vision chez Earthworm, c'est que les produits qu'on consomme, c'est ce qui a le plus gros impact sur la planète. Donc si on peut changer la manière dont ils sont faits, dont ils sont produits, notamment au niveau agricole et forestier, eh ben, on peut avoir un très gros impact sur le climat, la biodiversité, les gens. Et ça, c'est notre objectif dans la Fondation, de passer de chaînes d'approvisionnement qui sont extractives, de capital humain, de capital naturel, vers des chaînes de valeur qui sont régénératives.
Le ver de terre, vous ne l'avez pas choisi comme emblème sans raison.
C'est sous terre, c'est dans les usines en Indonésie, dans les champs en Afrique. Et symboliquement, le ver de terre, ben, il va prendre ce qui est un peu de la matière morte et puis il va en faire de la vie, il va en faire de l'humus. Et l'humus, qui est la matière vivante dans le sol, elle dépend des vers de terre pour exister. Donc on trouvait que c'était quelque chose de très symbolique. Et au-delà de ça, on est entre les entreprises et on est entre les ONG et la société civile. On est entre deux mondes. Et le ver de terre, lui, il est aussi entre deux mondes. Il est toujours entre la surface et la profondeur. Et bien, il est entre le monde minéral, la roche, et le monde organique, les plantes, le végétal. Et il transforme et il fait communiquer tout ça pour que ça fonctionne.
Quand j'ai vu collectif Sol Vivant, j'ai voulu savoir qu'est-ce que vous appelez un sol vivant. Et il y a beaucoup de choses qui se passent sous nos pieds.
Tout à fait. Alors, moi, je suis agronome de formation. Et puis, à l'école, j'ai appris, comme la plupart des gens de ma génération, que ben, un sol, c'était plutôt un substrat dans lequel on plantait des graines, mais ce qui était important, c'était ce qu'il y avait au-dessus, les plantes. Et toute l'agronomie s'est beaucoup occupée à soigner les plantes avec un certain nombre de produits chimiques, etc. Et puis on s'est beaucoup concentré sur les rendements, les variétés, et on en a un peu oublié le sol. Et puis ces dernières années, il y a plein d'agriculteurs, de chercheurs qui ont remis en lumière le fait que le sol, c'est un milieu vivant. En fait, il y a énormément d'êtres vivants. Hein. Dans un gramme de sol, on va jusqu'à un milliard d'êtres vivants. Et puis, c'est tous ces êtres vivants, que ce soit des champignons, des bactéries, des vers de terre, des insectes, ils vont capter le végétal mort de la surface, de la paille, des plantes, des racines, et il va en faire du sol. Et en fait, ce qui est fantastique, c'est qu'en faisant ça, il va d'abord prendre le carbone de l'atmosphère et puis le mettre dans le sol. Et ça, c'est un impact direct positif sur le climat.
Un milliard d'êtres vivants dans un gramme de sol, l'idée peut faire peur. Gardez votre calme, parce que le plus souvent, ces êtres sont inoffensifs pour l'homme et en plus, ils nous rendent de grands services. Ils fertilisent les sols et ils nous débarrassent du carbone généré par les activités humaines. C'est précisément ce carbone qui nous cause des soucis dans le réchauffement du climat.
Oui, et c'est pour ça qu'il y a un regain d'intérêt pour le sol, parce qu'on s'aperçoit que selon comment on gère le sol, ben, si on le gère simplement comme un substrat et puis qu'on va le travailler, on va pas le laisser couvert, etc., ce sol, il va émettre du carbone, il va se dégrader. Alors que quand on s'en occupe, quand on le couvre, quand on donne à manger à tous les animaux qui sont dans le sol, on va capturer du carbone. Donc, ce qu'on fait dans le collectif Sol Vivant, c'est travailler avec différents acteurs, notamment les entreprises, la région, dans les Hauts-de-France, et puis les agriculteurs, bien sûr, pour voir comment est-ce qu'on arrive à des pratiques qui sont régénératrices des sols. Parce que le sol, et c'est ça qui est fantastique avec la nature, ce qui est dégradé peut se récupérer, peut se régénérer. Parce que la nature a cette force d'abondance et puis c'est cette force vitale qui fait qu'elle est capable de régénérer un certain nombre d'écosystèmes par elle-même. En fait, la réalité, c'est que le sol se crée grâce aux végétaux. Le végétal qui est planté sur un sol, il va absorber les gaz de l'atmosphère, notamment le carbone, pour faire des sucres, de la cellulose, des tissus, qui font que lui, quand il se dégradera ce végétal, il va aller donner et nourrir le sol. Et donc, plus on plante sur un sol, plus on va mettre de racines, de plantes, plus on va le couvrir, c'est pour ça qu'on dit ça, mais plus en fait on va donner à manger et on va donner un abri à toute la vie qui existe dans le sol. Et elle va proliférer, prospérer et créer de l'humus, cette matière noire là qui constitue la richesse du sol. Et pourquoi les Hauts-de-France? Parce que historiquement, il y a beaucoup d'agriculture. On cultive des pommes de terre, des betteraves, du blé, des céréales, etc. Et donc, naturellement, c'est vers cette région qu'on s'est dirigé. Et puis, on a réfléchi à comment approcher et travailler avec les agriculteurs, pas d'une manière punitive, parce qu'on n'est pas partisan d'une écologie où on dit aux gens « il faut pas faire ci, il faut pas faire ça ». On est plutôt dans une démarche où on va collaborer, travailler ensemble, en disant « mais finalement, consultons aussi les scientifiques, consultons les agriculteurs, qui savent aussi comment bien gérer leur sol. Et réfléchissons ensemble à comment on arrive à transformer les pratiques. Et donc ça implique de mesurer, de suivre, d'accompagner cette transition.
Il est bien entendu que la mesure de la santé des sols est une boussole pour l'action. La difficulté, c'est que l'introduction de nouvelles méthodes de travail implique de nouveaux outils.
Alors, on a demandé à des scientifiques, on a demandé à des agriculteurs, on a demandé à des praticiens, et puis tous nous ont dit, la santé du sol, c'est le taux de matière organique, qui est quelque chose de très important. Donc on a créé une sorte d'indicateur qui permet de mesurer ça. Ça consiste à faire un trou dans le sol, tout simplement, récupérer un échantillon, puis mesurer au laboratoire le taux de matière organique et l'argile. Et puis il y a d'autres choses qu'on regarde de manière visuelle sur le champ, c'est la structure du sol. Et puis ensuite, on va regarder aussi s'il y a eu présence ou des témoins de la vie dans le sol. Donc par exemple, s'il y a des vers de terre, on va avoir beaucoup de trous, de galeries. Et en observation, il y a des méthodes de recherche qui permettent de qualifier ça, si c'est très, très riche ou peu riche. Puis la combinaison de tout ça, ça nous donne un indicateur qui permet de mesurer la santé du sol.
Ah, c'est pour ça que vous creusez un trou, une tranchée là, et que j'ai l'impression que vous lisez dans la roche, quoi.
Quand les chercheurs font ça, ils font vraiment un profil complet de sol. Nous, pour simplifier, on fait ça à la bêche avec plusieurs trous dans un même champ. Et puis cette année, il y aura à peu près 350 à 400 agriculteurs qui auront fait ça dans plusieurs parcelles de leurs exploitations. Donc l'idée, c'est d'avoir un niveau de départ en se disant, bah, tiens, on en est où sur la santé de ce sol? Et puis comment est-ce qu'on améliore ça? Et puis ensuite, donc, on suit des pratiques, comme par exemple le taux de couverture du sol, les rotations culturelles qui sont mises. Et puis plus ça va s'améliorer, plus on sait que la santé du sol va s'améliorer.
La rotation culturelle, ça veut dire que si je cultive la même chose tout le temps, ce n'est pas bon.
Exactement. Alors naturellement, les agriculteurs, ils ont des bonnes pratiques. Mais le grand défi, c'est que quand on cultive toujours la même chose sur le sol, il s'appauvrit. Et la force d'un sol, c'est sa diversité. D'ailleurs, c'est la même chose pour la société, c'est la même chose pour le monde. C'est une des lois de la nature. La diversité est une force. Cette diversité dans le sol, elle dépend de toute la diversité de ce qu'on va donner à manger à ce sol. Donc il faut différentes espèces, différents types de champignons, de racines qui vont prospérer. Et donc c'est important de faire des rotations. Par exemple, quand on met un couvert après un blé, on va essayer de mettre plein d'espèces différentes. Des espèces qui stockent de l'azote, de l'air, des légumineuses. On va mettre des espèces qui vont ouvrir le sol avec leurs racines. D'autres qui vont aller très en profondeur. Et en fait, toute cette diversité d'espèces va permettre à tous les niveaux du sol d'avoir de la vie. Et cette vie, elle est source de plein de bénéfices, que ce soit de structure. Le sol va devenir de plus en plus comme une éponge. Ou alors des bénéfices uniques parce que justement il va y avoir beaucoup de petits champignons, des bactéries qui prospèrent et qui donnent des éléments après nutritifs aux plantes.
Alors, ce changement de paradigme dans la production agricole, ça suppose un accompagnement de l'agriculteur.
Tout à fait. Alors, aujourd'hui, il y a un travail fort qui est réalisé par les coopératives, par un grand nombre d'associations qui travaillent déjà sur le sujet depuis très longtemps. Et les groupes de travail d'agriculteurs, l'APAD, etc. Tout ça, c'est des gens qui travaillent sur le sujet depuis longtemps. Et puis, mais ça reste quand même à peu près 4% des agriculteurs sur le territoire français qui font ce type d'agriculture dite régénératrice. On voit un changement, mais c'est pas évident. On a un peu peur du changement. On se dit, mais il va falloir que je réapprenne des choses. Quand c'est 100% de l'activité économique de la personne, son exploitation agricole, lui dire, bon, oui, tu vas changer de système, ça va aller, pas si évident que ça. Et ensuite, il y a toute une dimension technique où on se dit, mais comment je fais concrètement? C'est quelles sont les bonnes espèces de couverts que je dois mettre? Comment je fais pour changer mes cultures? Comment je travaille mon sol différemment? Et ça, c'est vraiment une question qui nécessite de l'accompagnement. D'experts qui ont déjà vu ça dans différentes situations et puis qui peuvent apporter cet accompagnement. Puis la dernière chose, il y a un côté financier, c'est-à-dire que changer, ça coûte un peu au début. Et puis, notamment, s'il faut changer de machine, s'il faut se former, etc. Et aujourd'hui, apporter des financements qui permettent d'accélérer cette transition, c'est un élément important.
Voyons cet aspect financier. Moi, je suis agriculteur. Mon souci, c'est de produire beaucoup à bas prix. Alors, la qualité, ça coûte cher. Ce que vous me demandez, c'est un changement total, y compris dans le matériel agricole que je vais utiliser. Et là, c'est pas facile au niveau financier. Il faut quand même que quelqu'un me tienne la main.
Absolument. Alors, il y a trois manières de jouer. La première chose, c'est toujours le prix en disant, si je produis quelque chose de meilleure qualité, il faut que ma matière première soit valorisée. La deuxième chose, c'est que quand on travaille plus avec la nature, quand on collabore plus avec la nature, on économise aussi. Et on s'aperçoit que lorsque un agriculteur travaille en agriculture régénératrice, il a moins de coûts. Déjà parce qu'il va un peu moins travailler son sol, donc il va utiliser moins de carburant. Ça, c'est un gros poste de coût chez l'agriculteur, l'énergie, la force motrice, les heures de tracteur, quand on doit labourer, hercer, etc. Tout ça, ça coûte énormément d'argent, alors que si on laisse plutôt les vers de terre faire le travail, c'est autant de coûts qui disparaîtra. Donc, on s'aperçoit aussi que quand le sol est en meilleure santé, les plantes sont en meilleure santé. Donc, elles sont moins malades. Si elles sont moins malades, il y a moins besoin de mettre de fongicides, il y a moins besoin de mettre d'insecticides. Et ça, c'est des choses qui ont été clairement observées par les agriculteurs qui sont dans ces systèmes-là. Leur marge à l'hectare augmente parce que leur coût diminue. Et dans le collectif, on réfléchit à cette solution. On se dit, mais concrètement, comment est-ce que ça peut se matérialiser pour les agriculteurs? Comment est-ce qu'on peut faire pour que cette transition soit sans risque ou avec le moins de risque possible pour l'agriculteur, puis elle se fasse à grande échelle et relativement rapidement, parce que c'est une nécessité. Et pour ça, tout le monde doit aider, parce qu'on ne peut pas laisser l'agriculteur seul face à ça. C'est un défi immense. Il a déjà beaucoup de défis sur les épaules, l'agriculteur, donc il faut trouver les moyens de l'accompagner de manière juste.
Disons également que l'implication de la région Hauts-de-France n'est pas le fruit du hasard. Et comme toujours, il faut un coupable. Ici, l'homme par qui tout est arrivé, c'est M. Philippe Vasseur, ancien ministre de l'Agriculture, président de la mission Rêve 3. Ce Rêve 3 ou 3e révolution industrielle en Hauts-de-France, c'est une action concertée entre différents acteurs, des politiques, des entreprises, des universités, des chercheurs, des associations, des citoyens et bien évidemment des agriculteurs.
Rêve 3, c'est de faire en sorte que l'économie soit basée sur le vivant, donc la bioéconomie, en d'autres termes, la production de bioplastique, de biogaz, de bioénergie. Il y a énormément de choses que la nature peut nous donner et qui peut alimenter notre économie industrielle. Il ne faut pas oublier que la région de France, c'est une région qui est très industrielle. Et donc, la proposition, c'est de dire, de Rêve 3, c'est de dire, accélérons cette transition. Il y a de l'innovation, il y a des choses à faire avec le vivant et on a un énorme bassin à la fois industriel et agricole dans cette région sur lequel on peut capitaliser. Et on s'est rapproché d'eux parce que tout naturellement, quand on a commencé à parler de la santé des sols dans la région, ils nous ont dit « mais nous, la santé des sols, c'est quelque chose qui est clé pour réussir la bioéconomie. Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble et accélérer, collaborer pour accélérer nos efforts ?» Et c'est ainsi qu'ils sont rentrés dans le collectif et qu'on travaille avec eux sur ces sujets-là.
Alors, en 2019, ça concernait une vingtaine d'agriculteurs. Aujourd'hui, on me dit que vous en êtes à 350. Et en 2025, vous visez un peu plus de 1500 agriculteurs. Disons que ça prend de plus en plus.
On y va progressivement. On pense que c'est très important de travailler ensemble en co-création. Et donc, on est parti petit à petit au début. Et puis aujourd'hui, étant donné que les outils, les mesures ont été assez testées, on est en mesure d'accélérer. Et puis les entreprises, elles aussi, veulent accélérer. Donc on est sur une trajectoire, comme vous le dites, d'augmentation progressive des nombres d'agriculteurs engagés dans le projet. Il ne faut pas oublier que c'est aussi des agriculteurs qui consentent à être engagés dans le projet. Donc il faut que la proposition soit attractive pour eux. Et donc on est aussi très conscient du fait que cette progression, elle est aussi menée par les agriculteurs qui disent « oui, ça m'intéresse d'aller dans cette direction ». Avec ce que vous proposez, donc on y va. Et ça, c'était un test important qu'on a eu en début d'année, qui, heureusement, nous prouve que ça va dans la bonne direction.
Donc, si moi je vois collectif, en fait, ça veut dire que vous mettez tout le monde pour travailler collectivement, c'est-à-dire les agriculteurs, les fournisseurs d'intrants, les industriels, les consommateurs, en fait, tout le monde, quoi.
Oui, c'est ça. Alors, nous, on va toucher peu les consommateurs directement parce qu'on n'a pas cette force, mais les marques, par leur communication et puis par leur interaction quotidienne avec les consommateurs, les distributeurs, c'est des gens qui sont en contact direct avec les consommateurs. Mais on met vraiment tous ces gens autour de la table parce que c'est eux qui discutent et qui travaillent ensemble sur les approvisionnements de matières premières. Donc, c'est important qu'ils se parlent et qu'ils s'alignent pour ne pas que l'un vienne avec une requête, l'autre avec une autre, ce qui est un peu parfois le cas, malheureusement, dans les chaînes agroalimentaires.
Moi, je veux vous dire merci.
Et merci à vous.
J'aurais aimé continuer cette discussion parce qu'on apprend beaucoup de choses avec vous.
Merci.
Je vous remercie.
C'était un plaisir également. Merci de l'opportunité.
Okay.
Et puis, bonne continuation.
Bonne journée.
Au revoir, monsieur.
Nous étions en compagnie de Bastien Sachet qui nous parlait de l'action du collectif Sol Vivant dans les régions Hauts-de-France. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Piedel, au micro Sayouba Traoré. Pour retrouver cette émission RFI.fr, pour nous écrire lecoqchante@rfi.fr et vous pouvez également consulter notre page Facebook Le Coq Chante. Enfin, si vous aimez cette émission Le Coq Chante, on vous conseille de vous y abonner en recherchant Le Coq Chante dans votre application favorite de podcast. Et si vous voulez nous encourager, mettez-nous 5 étoiles et laissez-nous un commentaire.
Appelez-nous, exprimez-nous.